Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Radio Courtoisie. Vous êtes à Culture et Politique avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Richard Adam au micro, j'ai oublié de le préciser.
Oui, c'est utile de le préciser. Bonsoir Richard, bonsoir à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver à nouveau.
Aujourd'hui, nous allons parler du Liban, d'Israël et du Hezbollah. Éclairer un peu, c'est toujours compliqué le Liban, on va un peu éclairer nos auditeurs. Avec un invité de Marc, il s'appelle Marc d'ailleurs, Marc Mourcos, qui est déjà passé à ce micro avec nous il y a un peu plus d'un an. Vous êtes chercheur enseignant à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, et vous êtes en droit international, hein, si je me souviens bien. Et vous êtes un ancien étudiant de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, où vous avez milité d'ailleurs.
Absolument.
Et donc vous connaissez parfaitement le Hezbollah parce que vous l'avez confronté sur le terrain, comme on dit. Et puis vous le connaissez donc physiquement et politiquement.
Absolument.
Et c'est pour ça que vous êtes là pour nous éclairer sur ce mouvement. Et surtout que les choses bougent au Liban. Il y a le Hezbollah, il y a l'État libanais qui est, dit-on, impuissant et qui veut bien négocier avec Israël. Bref, tout ça est très compliqué. On va commencer par le commencement. Le Hezbollah a déclenché pour la énième fois, je dis bien il a déclenché parce que souvent on fait semblant d'oublier que c'est le Hezbollah qui déclenche les guerres et non pas ni le gouvernement libanais ni le gouvernement israélien. Ce ne sont pas les gouvernements, c'est un groupe paramilitaire qui déclenche les hostilités de manière unilatérale. Donc une fois de plus, parce que ça s'est déjà passé plein de fois, une fois de plus, le 2 mars, il déclenche suite aux attaques israélo-américaines contre l'Iran, le 28 février, donc le 2 mars, le Hezbollah lance les hostilités contre Israël. Donc concrètement, c'est lancement de roquettes sur le territoire israélien, ce qui évidemment a provoqué une réplique israélienne. Et voilà ce territoire de nouveau en guerre. Alors que le gouvernement libanais est un peu, on a l'impression qu'il est un peu spectateur, il pleurniche beaucoup, comme toujours, il se plaint, il appelle l'ONU, les États-Unis, la France et que sais-je encore, et ne peut rien faire. Alors que ce gouvernement, et je vous laisse la parole, s'était engagé, et c'est ça le point important, parce qu'habituellement le Hezbollah lance des guerres et le gouvernement pleurniche en disant je peux rien faire. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement depuis un an. Suite à des élections présidentielles qui ont enfin eu lieu, parce que pendant 2 ans, il y avait une vacance du pouvoir, parce que le Hezbollah bloquait les institutions, ayant peur d'avoir un nouveau président qui ne lui serait pas favorable. Bref, et ce nouveau gouvernement s'était engagé à désarmer le Hezbollah. Et non seulement il s'était engagé à le désarmer, mais il nous avait même dit, quand je dis nous, il a dit aux États-Unis, au monde entier, que ça y est, c'est un désarmement en 3 phases, et que la première phase qui concerne le sud du Liban, donc la frontière libano-israélienne, c'est fait. Au mois de janvier, le chef de l'armée libanaise était en visite officielle aux États-Unis, il a affirmé, personne ne le croyait, hein, mais il a affirmé que ça y est, l'armée libanaise a désarmé le Hezbollah. Évidemment, c'était totalement faux, parce qu'il suffit d'avoir des yeux pour le savoir que c'était faux. Et non seulement c'était faux, c'était même pire. C'est que non seulement il ne les a pas désarmés, ils étaient encore plus forts que d'habitude. Et donc, et cette guerre l'a démontré. Et donc le gouvernement libanais s'est ridiculisé, une fois de plus. Et comme il s'était engagé à désarmer le Hezbollah, il ne l'a pas fait. Là, ça y est, il veut négocier en direct avec Israël pour signer une paix. Mais alors, Marc Mourcos, moi, je pose une question très simple. À quoi sert de signer une paix avec Israël quand on n'est même pas en guerre contre Israël? Parce que le gouvernement libanais est officiellement en guerre depuis 70 ans, depuis que le Liban existe. Mais en réalité, il n'a jamais fait de guerre à Israël. Et il n'y a aucun conflit territorial entre le Liban et Israël. Alors, ça sert à quoi de signer un traité entre deux entités, à savoir deux États, qui ne se font pas la guerre, alors que celui qui fait la guerre ne fait pas partie de cette négociation?
Alors dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses. Je reviens d'abord sur un aspect qui me semble assez important. Lorsqu'on parle de l'État libanais, il faut garder en tête qu'on ne peut pas réellement aborder ce sujet comme si l'État libanais était effectivement un État de droit. J'explique mon propos. L'État de droit, scientifiquement, et je pense qu'on peut le constater en pratique, notamment par le biais de l'exemple du Liban, l'état de droit, c'est un état où le pouvoir politique est institutionnalisé. C'est-à-dire que si nous regardons la France et l'Occident de manière générale, ce processus est très ancien. Il commence avec Saint-Louis, le roi Louis IX, et s'achève avec Louis XIV, et cette tradition de l'état de droit, de l'institutionnalisation du pouvoir politique, se perpétue, même avec les changements de régime, depuis et jusqu'aujourd'hui. Si on fait une approche, une petite comparaison entre les pays occidentaux qui, sous l'influence de la France, cette grande nation qui a effectivement institutionnalisé le pouvoir, puisque comme vous le savez, le roi ne tenait plus son pouvoir des suzerains, il ne répondait à nul si ce n'est Dieu. Il n'y a aucune expérience historique comparable ailleurs dans le monde que dans l'Occident que nous connaissons. C'est-à-dire que oui, lorsqu'on compare avec l'Allemagne, lorsque nous comparons avec l'Italie, lorsque nous comparons avec le Royaume-Uni, il y a effectivement des histoires qui peuvent se rapprocher par les événements, par les bouleversements, par les changements, par l'affirmation du pouvoir. Lorsqu'on regarde de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est-à-dire de la région du Proche-Orient, aucune expérience similaire en 6000 ans d'histoire. Même si l'on prend le dernier millénaire pour faire un comparatif avec l'Occident, même ce dernier millénaire n'est entaché d'aucune avancée à ce sujet-là. Le Liban, d'autres différences. Le Liban n'est pas un État-nation. Lorsque nous regardons l'Occident dans sa grande majorité aujourd'hui, je pense surtout à l'Europe, les États sont en quelque sorte, étaient peut-être des États-nations un jour, mais en tout cas aujourd'hui, connaissent un sentiment national important. La nation existe. En France, elle existe, en Allemagne, elle existe, en Italie, elle existe. Au Liban, elle n'existe pas. Donc, premièrement, pas d'état de droit. Ensuite, pas de nation libanaise à proprement parler. Lorsqu'on en regarde...
Pardon, je vous coupe parce que je partage à 100% ce que vous dites, mais c'est très intéressant parce que c'est un sujet tabou que le fait qu'il n'y ait pas d'état-nation, il n'y a pas de nation libanaise, comme on peut la concevoir.
Et on n'arrête pas d'affirmer l'inverse.
Je dis ça depuis des années.
On n'arrête pas d'affirmer l'inverse, oui. Y compris des chefs d'État étrangers, enfin en particulier le nôtre, à chaque visite au Liban, à chaque fois qu'il s'exprime au sujet du Liban, il va dire au contraire que c'était un exemple pour le Proche et le Moyen-Orient, parce que c'était une nation composite, etc. Mais c'est l'inverse de la réalité.
Ça a peut-être été un exemple, je pense très sincèrement que ça a été un exemple dans le passé de coexistence, par un certain
quand
temps.
Quand les chrétiens étaient majoritaires.
Absolument, en fait. Simplement parce que toutes les données étaient différentes. Toutes les caractéristiques et de la population et de l'État étaient absolument différentes. Nous sommes à deux antipodes. Aujourd'hui, nous avons un État qui s'effrite, qui se meurt, qui est enterré, je dirais même. Une population qui n'est pas une, mais qui est plurielle. Nous avons des populations au Liban qui, certes, coexistent sur un même territoire, mais ne coexistent que géographiquement. C'est-à-dire que lorsque le monde entier veut faire croire qu'effectivement, le Liban, il y a un vrai roman national, un vrai sentiment identitaire libanais, c'est absolument faux. Il y a sans doute un attachement à une certaine culture, à une certaine tradition, à certains événements historiques qui auraient pu être partagés par les différentes communautés. Mais lorsque je prends la nation en tant que concept, soit-il le concept, la conception française de la nation ou soit-elle la conception allemande? Dans la conception française, la nation repose, c'est bien les Lumières, c'est bien Rousseau, c'est bien d'autres auteurs qui ont marqué cette conception dans ce pays, dans ce très grand pays, dans cette très grande nation qu'est la France. La nation, c'est le sentiment de vouloir faire nation. C'est se sentir français, c'est se revendiquer d'une certaine culture, d'un certain contrat social. Or, ce contrat là-bas n'existe pas. Il est absolument artificiel. Et quand je prends la conception allemande, qui elle est même bien plus rigide à mon sens, puisque la conception allemande repose, on l'appelle la conception objective, elle repose sur des caractères objectifs, c'est-à-dire l'appartenance à un culte, à une religion, à une ethnie, à une race, avoir une histoire commune, une langue commune, une tradition commune. Ces éléments, effectivement, pour un grand nombre d'entre eux, ne sont pas partagés entre les différentes populations, entre les différentes communautés qui existent au Liban. Et je pense que il faut pouvoir être clair et être honnête par rapport à ce sujet-là. Sans honnêteté, et dans notre âme et dans notre tête, nous n'arriverons à aucune solution. Nous sommes voués à nous entretuer éternellement. Et je pense que ces 106 ans, cette année ce sont les 106 ans de la création du Grand Liban, donc l'État libanais que nous connaissons aujourd'hui, qui a certes changé de forme, mais qui n'a pas changé, qui a certes changé de régime, mais qui n'a pas changé de forme. En 106 ans, nous devons faire le constat que cette tentative a quelque part échoué. Attention, je ne me prononce pas sur une impossibilité pour les Libanais de vivre ensemble, simplement parce que scientifiquement, théoriquement, tout est possible. Nous pouvons trouver mille et un moyens à essayer de nouveau. Les deux questions qu'il faut se poser, et qui sont les questions essentielles, sont la première, les Libanais veulent-ils toujours vivre ensemble? Et la deuxième, et qui est plus importante, parce que je pense effectivement que les Libanais voudraient hypothétiquement vivre ensemble, mais la deuxième question qui est plus importante, c'est quel prix est-ce que les groupes Est-ce que les communautés, est-ce que les familles, est-ce que les régions, est-ce que les villages libanais sont prêtes à payer pour faire fonctionner une coexistence qui manifestement ne fonctionne plus? Alors, si je reviens sur votre question en particulier, lorsque nous parlons de l'État libanais, nous parlons d'un État qui, à mon sens, n'existe que formellement. La paix avec Israël, qui est aujourd'hui envisagée dans le débat, je pense que nous en sommes très loin, mais en tout cas les pourparlers qui commencent, les négociations directes qui pourraient commencer dans les quelques jours qui viennent par le biais de cette rencontre entre les chefs d'État libanais et israéliens, je pense que c'est une bonne chose. Simplement parce que le Liban, c'est déjà pas plus mal, le Liban reprend sa place à juste titre en tant que nation souveraine, en tant qu'État souverain, je n'aime pas le terme nation pour parler du Liban, en tant qu'État souverain pour négocier en son propre nom. Lorsque les Iraniens, qui souhaitaient, par l'interposition du Hezbollah au Liban, garder les négociations de manière propre, s'attribuer les négociations à titre personnel, je pense qu'ils ne sont pas très contents aujourd'hui de voir qu'il y a effectivement des prémices d'une institutionnalisation de pouvoir au Liban qui veulent leur retirer ce rôle. C'est très positif, c'est une très bonne chose. En revanche, je ne pense pas que l'État libanais peut aller jusqu'au bout aujourd'hui avant de régler le problème à l'interne qui existe, à savoir le Hezbollah et la présence des armes du Hezbollah sur le sol libanais.
Parce que, tout simplement, je précise aux auditeurs que le point clé, c'est comme je l'ai rappelé au début de l'émission, il n'y a pas de conflit territorial avec Israël et il n'y a pas de guerre entre l'État libanais et je veux dire, il n'y a pas de guerre, il y a pas, l'armée libanaise ne s'est jamais, à part en 1948 quelques jours, ne s'est jamais battue contre l'armée israélienne.
Aujourd'hui, il y a effectivement un problème territorial géographique qui est dû justement au fait de la guerre et au fait du Hezbollah.
Voilà. Il ne faut pas oublier... Il n'y a pas de revendication. Israël
absolument.
Ne revendique pas un territoire quelconque.
Il n'y a pas de conflit frontalier.
En l'an 2000, il y a un événement qui est très intéressant. Lorsqu'on parle de pouvoir légitimer un certain pouvoir ou une certaine force, il faut bien trouver un ennemi. En l'an 2000, après le retrait israélien du sol libanais, notamment du sud du Liban, il y a un petit territoire dont personne n'avait entendu parler, qui n'existe pas, qui n'est effectivement pas un village.
Microscopique d'ailleurs.
On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça tient peut-être à 1000 mètres carrés et peut-être à 100 000 mètres carrés. En réalité, c'est un territoire qui n'avait jamais été revendiqué par personne, dont tout le monde ignorait l'existence, et que le Liban considère appartenir historiquement à la Syrie, qui ne nous concerne pas en tant que Libanais de manière directe.
Il a été envahi par Israël pendant la guerre des 7 jours, des 6 jours,
absolument.
Lorsqu'ils ont pris le Golan.
À laquelle le Liban n'a pas participé.
Absolument. Et c'est parce que ce petit lopin de terre est collé au Golan, en fait.
Qui a fondé tout le récit islamiste, tout le récit du djihad islamique au Liban, tout le récit du Hezbollah s'est basé justement
il n'y avait rien d'autre.
Sur ces petites collines. On ne sait vraiment pas à qui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de démarcation de frontière entre le Liban et la Syrie et entre Israël et le Liban.
La Syrie le revendique. Hein,
donc, absolument, la Syrie le revendique. Le Hezbollah le revendique. Je n'ai jamais entendu une déclaration libanaise officielle qui revendiquait ce petit territoire. Et justement,
il y a un nom, ce territoire.
Oui, les fermes de Sheba.
Voilà, absolument.
C'est des petites fermes, en fait, c'est rien.
Les fermes de Sheba. On ne sait pas en quoi elles consistent. Je suis moi-même du sud du Liban, je peux affirmer que ni moi, ni mes aïeuls n'ont vu, ne savent ce que c'est que ces fermes.
C'est même pas le plateau du Larzac, en fait.
Non, c'est vraiment... Absolument,
c'est minuscule, absolument, c'est rien.
Lorsqu'on fonde tout ce récit là-dessus, qu'on crée une sorte d'animosité artificielle, oui, évidemment que les Libanais ne la veulent pas, je pense que les Israéliens ne la veulent pas non plus, ça me paraît complètement absurde. Tout ce que vous pouvez entendre de ce qui peut être différent par rapport aux autres communautés que la communauté chiite, je pense que ce sont des petites aventures romancières qui tiennent à un discours de complaisance qui plaît à une sorte d'internationaliste humanitaire, islamique, par moments également. Je pense que c'est un discours qui est absolument faux. Il faut regarder les choses comme elles sont. Il faut arrêter de se cacher et de se voiler la face. Le Liban n'a aucun problème idéologique de fond. Et quand je parle du Liban, je parle même de l'État. Je ne vous parle même pas des différentes communautés. Le Liban n'a aucun problème idéologique envers l'État israélien. Et j'ose espérer, j'espère que j'ai raison, j'ose espérer que l'État israélien, effectivement, sera raisonnable à cette idée, puisque je ne vois pas ce qui motiverait une animosité israélienne envers le Liban.
Donc, officiellement, il n'y en a pas.
Si ce n'est le fait que le Liban s'est transformé depuis les années 60 et je regrette absolument ce que je vais dire, en un territoire de non-droit qui a légitimé, en quelque sorte, beaucoup, pour pas dire toutes, et je pense que je vais encourir des poursuites pénales au Liban pour ce que je vais dire, qui légitime énormément, en tout cas, d'interventions militaires israéliennes contre le sol libanais. Évidemment, ça ne fait plaisir à personne que son pays soit envahi. Ça me brise le cœur de voir effectivement qu'aujourd'hui, une partie du Liban est sous occupation. Ça me brise le cœur de voir que la guerre se perpétue, continue et fait du mal, brise des familles, brise des personnes. Mais cette guerre, je pense que l'État libanais l'a cherchée parce qu'il a oublié son rôle, il a abandonné son poste depuis les années 60 en transformant, malgré lui, l'armée libanaise en une sorte d'armée dont le rôle est tombé en désuétude le jour où le Liban a donné les clés de son territoire à ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation de libération de la Palestine ou le Front de libération de la Palestine selon les appellations différentes. Et depuis cet accord du Caire qui intervient en 1969, nous n'avons connu aucun jour de paix dans ce pays. Par l'effet de milices étrangères, comme le Hezbollah, comme l'OLP à l'époque, l'Organisation de libération de la Palestine, comme également l'armée syrienne qui occupe le Liban pendant 29 ans, et c'est un élément qu'on oublie, je parle de l'armée d'Assad, dont on faisait les louanges pendant longtemps en Occident parce qu'on pensait qu'il était effectivement le protecteur des minorités dans cette région du monde. C'était peut-être vrai en Syrie, je ne suis pas sûr que ça l'a été au Liban. Et même sous l'influence de milices qui se donnent l'apparence de milices libanaises, et je ne parle pas seulement du Hezbollah. Donc aujourd'hui, en réalité, il y a deux chemins qui se présentent pour l'État libanais et pour les Libanais par là même. Soit le Liban répond présent aux invitations et aux sollicitations de M. Trump et son administration et son gouvernement. Donc, se présente à la table des négociations, entame des pourparlers sérieux et des négociations sérieuses avec l'État d'Israël en espérant mettre le Liban en tant qu'État et en tant que société diverses et multiples à l'écart du conflit qui pourrait opposer le Hezbollah à Israël à l'avenir, soit je pense que le Liban signe son arrêt de mort et plante lui-même un clou dans son cercueil parce que les Libanais ne pourront plus vivre ensemble de la sorte. Je suis catégorique là-dessus.
On fait une pause et j'ai une question à vous poser juste après.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, on reprend notre émission sur le Liban, le Hezbollah, Israël. La clé de ces négociations, parce que encore une fois, je me répète, comme il n'y a pas de conflit entre les deux pays, vous venez de le dire, le conflit, c'est que le Liban, l'État libanais laisse son territoire comme une cour de récréation où il y a des enfants terribles qui font ce qu'ils veulent dans cette cour. Et donc, c'est ça qui fait le conflit. Donc, c'est le point clé de la négociation. C'est-à-dire que, si, une fois qu'on a réglé le problème, aujourd'hui c'est le Hezbollah, autrefois c'était les Palestiniens, et que sais-je encore. Aujourd'hui, en tout cas, parlons d'aujourd'hui, c'est le Hezbollah. Si on n'a pas réglé, si l'État libanais ne règle pas le problème du Hezbollah, la négociation n'a pas lieu d'être. Parce que c'est le seul point, pratiquement. Tous les autres points, c'est des accessoires. Et donc, vous disiez au début de cette émission que ça peut être long et difficile. Et j'imagine que vous dites ça parce que pour que ça aboutisse, il faut que l'État libanais puisse désarmer le Hezbollah. Ma question, c'est, est-il... Alors je sais, j'ai entendu mille fois que l'armée libanaise n'a pas les moyens. Moi je sais parfaitement qu'elle en a les moyens, c'est pas une question de moyens. Pensez-vous que l'État libanais pluriel, enfin l'État, ce pays pluriel gouverné par un État qui n'en est pas un, est capable de désarmer le Hezbollah sans qu'il se divise en quatre, sans que l'armée libanaise se divise en deux ou trois ou quatre comme elle l'a toujours été, sans que ce pays rentre en guerre civile, c'est possible ?
Non, non, non. Je n'ai aucune autre réponse. J'admire une volonté très honnête chez les dirigeants libanais.
C'est des utopistes.
Je pense principalement à une personne qui appartient à une mouvance politique que j'ai toujours estimée adverse et à l'opposé de la mienne. Je pense au Premier ministre Nawaf Salam.
qui est musulman, donc je rappelle aux auditeurs, qui est un musulman sunnite.
Qui est musulman sunnite et qui a un passé, une histoire très importante avec des groupes de gauche à l'époque de la guerre civile libanaise. Il faut savoir que la gauche et la droite, pendant la guerre civile libanaise, c'était des belligérants, c'était
oui,
des milices.
C'est la guerre, oui.
Donc c'était effectivement, il y a une sorte, je dirais, d'histoire, d'appartenance historique à un mouvement qui est à l'opposé de ce qui me représente pendant cette période-là et jusqu'aujourd'hui. Je salue ses efforts, je salue son honnêteté, je salue son courage, tout comme celui du président de la République, qui est un peu plus sur la retenue, mais qui, à mon sens, essaie de jouer avec le Premier ministre un jeu de bon policier, mauvais policier, comme,
en fait,
disent,
il craint,
comme disent les,
dites-moi si je
les
me
anglophones.
Trompe, il craint, il est très prudent, le président de la République, et encore une fois, je rappelle aux auditeurs qu'il est chrétien, c'est un ancien chef de l'armée.
Absolument.
Et s'il est sur la retenue, c'est parce qu'il a peur.
Absolument.
Il a peur que le pays implose.
Je pense très sincèrement que c'est un homme qui ne réfléchit pas par ambition politique. Je pense effectivement qu'il essaye de jouer un rôle d'arbitre. Il en veut plus, mais c'est effectivement ce qu'il peut avoir aujourd'hui qu'il est en train de choisir. Je salue leurs efforts. Je salue même les efforts de certains officiers de l'armée libanaise qui sont objectivement très dévoués, très bons. Ils le sont peut-être tous, mais pas tous pour les mêmes raisons. Donc, il y a de la volonté, il y a du travail qui est en train d'être fait, mais à ce rythme, pour être très honnête, à ce rythme, le Liban ne sera pas ce qu'il est dans 20, 30, 50, 100 ans. Je pense que nous touchons à un point de non-retour. De non-retour sur plusieurs plans, d'abord sur le plan politique, nous constatons de plus en plus qu'il est difficile de continuer à vivre ensemble dans ces conditions-là. Un point de non-retour économique, le Liban se transforme en poubelle du Proche-Orient, et ça fait mal de dire ça de son pays, et un point de non-retour sociétal. C'est-à-dire qu'au-delà de la volonté politique de vivre ensemble, les Libanais sont sur les nerfs. Nous sommes nerveux les uns à l'encontre des autres. Nous interagissons difficilement les uns avec les autres. Il suffit aujourd'hui, je pèse mes mots, j'ai été à l'Université Saint-Joseph, je sais ce que ça peut être la tension politique entre les Libanais. À l'université, et ça c'était bien avant toutes les guerres que nous avons connues ces dernières années, l'Université de Saint-Joseph, j'y étais jusqu'en 2022. Il suffisait qu'une personne d'une certaine communauté dise quelque chose qui pique un tout petit peu quelqu'un d'une autre communauté pour finir dans une rixe, dans une bagarre à 30 contre 30, 50 contre 50, des ambulances qui viennent transporter les blessés pour des sujets qui seraient, je pense, dans toute société raisonnable, normalement constituée, absolument stupides. C'est ridicule, c'est ubuesque. Il suffisait parfois qu'un certain jeune homme et une certaine jeune fille de deux communautés différentes aient un petit souci qui n'a rien à voir avec la politique. Ça peut être des embrouilles de couple pour que tout le monde se tape dessus. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les Libanais sont sur les nerfs. Les guerres qui viennent d'arriver, elles ne simplifient pas la chose. La paix sociale a reçu un coup dur. Quand bien même les populations qui ont été déplacées sont allées dans d'autres régions pendant cette dernière guerre, effectivement, elles n'ont pas été reçues de manière très correcte parce qu'eux-mêmes n'étaient pas très corrects là où ils allaient. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est impossible. Et le point de non-retour, je crains qu'il ne se transforme en confrontation directe.
Il nous reste à peine 2 minutes, mais la question aussi qui est un peu cruciale, c'est la puissance actuelle du Hezbollah. Et n'a-t-il pas été affaibli, ce Hezbollah, quand même, à la fois par tout ce qu'a subi l'Iran, enfin le régime iranien qu'il porte à bout de bras, d'une part, d'autre part par l'action d'Israël, et peut-être aussi, en fin de compte, par un tout petit peu d'action, un tout petit peu de volontarisme du gouvernement, et puis par la lassitude des autres Libanais. Est-ce qu'il est aussi puissant qu'il l'était il y a un an, il y a 5 ans?
Le Hezbollah est comparable, à mon sens, à un homme très lâche. Un homme très lâche qui se sentirait plutôt affaibli face à ses pairs, affaibli peut-être sur son lieu de travail, qui ne dispose d'aucun moyen, d'aucune force par rapport aux autres, à autrui en société, qui en rentrant chez lui, se mettrait une cuite.
Et tabasse sa femme.
Et battrait ses enfants et sa femme. Le Hezbollah, je pense que c'est le constat qu'on peut en faire. Plus il sera faible face à ses ennemis déclarés, Je ne sais pas réellement s'il y a une vraie animosité entre les chiites libanais et Israël, si ce n'est celle animée par l'Iran. Je pense effectivement que le Hezbollah, plus il s'affaiblit, plus il se retourne contre les autres Libanais. C'est précisément cela qui me fait peur. Je le crains de tout mon cœur et j'espère seulement que si les Libanais venaient un jour à une heure très sombre à ne plus avoir la sagesse de penser aux solutions qui sont utiles, si nous allons vers le chaos, j'espère que ce sera une bonne fois pour toutes la solution espérée pour que les différentes communautés libanaises puissent vivre paisiblement, même si elles vivent chacune dans son coin.
Merci beaucoup à notre invité, donc à Marc Morcos, pour la deuxième fois à ce micro, et pas la dernière, on espère. On se retrouve dans une semaine chez Richard Haddad pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
À bientôt.